Voilà, donc maintenant nous allons aborder le grand soi, le soi supérieur, le soi inférieur, une question de Nora. Après le passage de la 4D+, peut-on fusionner avec nos trois soi ou faut-il attendre et d'expérimenter d'autres dimensions pour que nos trois soi soient réunis? Donc j'ai répondu déjà à cette question d'une certaine manière. Donc en fait, le but n'est pas de fusionner avec nos trois soi, c'est-à-dire déjà. Passer à la 4D+, c'est déjà, je dirais, travailler d'un commun accord au niveau du petit soi, c'est-à-dire du soi inférieur et du soi supérieur. Hein, c'est-à-dire à la distance qui nous sépare entre nous et le soleil, hein, c'est-à-dire de la première dimension à la 12e dimension. Ça, c'est le premier pas. Hein. Donc, une fois qu'on aura fait la fusion, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de séparation, hein, c'est-à-dire qu'en passant ce premier voile de l'oubli dit naturel, nous allons aussi en même temps casser ce que j'appelle le deuxième voile de l'oubli que nous avons mis dans notre expérimentation lorsque nous avons, entre guillemets, descendu en fréquence, ce qu'on appelle la chute. C'était donc entre le sixième et septième chakra, hein, donc entre le soi supérieur et le soi inférieur. On a remis une couche ici parce que on se rappelait trop qu'on était des dieux, quoi. Donc il fallait qu'on oublie qu'on était des dieux pour pouvoir vraiment expérimenter la chute encore plus fort. Hein. Donc l'avantage de cette chute en taux vibratoire a été de pouvoir expérimenter des choses encore plus dures. Parce que étant encore plus sensible, cela n'a fait qu'amplifier, on va dire, je dirais, l'expérimentation. Quand vous êtes ignorant d'un truc, vous ne pouvez pas savoir, donc vous ne pouvez pas souffrir. Mais quand vous connaissez une chose et que vous le vivez à fond, eh bien vous allez en souffrir énormément. Voilà pourquoi notre société actuellement dite de 3D falsifiée a autant de souffrances. C'est parce que, en fait, nous sommes des dieux ayant volontairement redescendu notre taux vibratoire afin d'aller expérimenter des trucs qui n'avaient pas été expérimentés, en fait. Donc, la seule chose qu'on puisse dire véritablement, je dirais, des âmes qui se sont incarnées sur Aurantia Gaïa, c'est vraiment des courageux. Parce que c'est le pire qu'on puisse aller. C'est comme si on vous disait aujourd'hui, tu vas y aller comme un enfant de cœur, aller réparer les réacteurs de Fukushima, et même pas en slip. Tu vas à poil et on te donnera une petite cuillère. Et tu te démerdes. C'est à peu près ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un taux de mortalité qui est énorme, tout a été flingué, et on y va parce qu'on sait que c'est pour le bien-être futur. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on rend service à une forme d'humanité quelque part, à une famille d'âmes qui est beaucoup plus grande que celle qu'on le pense. C'est-à-dire que ce que nous faisons là va bénéficier à l'ensemble des sept super-univers. Donc c'est à ce niveau une certaine forme de Fukushima. On est effectivement des extraterrestres venus en plein réacteur nucléaire, en slip et avec une petite cuillère, en se disant, une petite cuillère c'est notre mental, on va essayer de se sortir de là, et puis quel que soit le nombre d'incarnations, on s'en fout, mais on va savoir. Et après, on sait qu'il n'y aura plus du tout de Fukushima dans tous les super-univers. Donc on peut dire que c'est vraiment de cet ordre-là. C'est pour ça que les entités, quand ils nous regardent avec beaucoup d'amour, et je peux vous dire que c'est vraiment un amour inconditionnel. Parce que, franchement, est-ce que ça vous viendrait à l'idée, quand vous voyez un Japonais qui va vers la mort à grands pas, parce qu'à chaque fois qu'il va sur le site de Fukushima, il sait qu'il perd des années de sa vie. Et pourquoi le fait-il? Par amour. Pour sauver les autres. Est-ce que vous lui direz, dis, t'as les ongles sales, dis, là tu viens avoir une pensée qui n'est pas terrible? Non. C'est quelles que soient les émanations que pourra faire cet individu. Vous le regardez avec votre cœur grand ouvert, avec l'amour le plus illimité qui soit. Parce qu'en fait, il se suicide pour vous. Mais en pleine conscience. Alors bien sûr, d'une certaine manière, il suicide son véhicule. parce que son âme est tellement grande et elle sait qu'elle est immortelle. Voilà un petit peu ce que nous sommes venus faire, entre guillemets, sur Terre. Et c'est pour ça que je pourrais dire que Urantia Gaïa, elle aimerait bien que ça se termine, quoi, parce qu'elle commence à en avoir marre. Je la comprends. Donc, on ne va pas, après la résurrection, c'est-à-dire à la fin du processus d'ascension, à la résurrection, nous n'allons pas fusionner avec notre grand soi. Je dirais ça pour la quasi-majorité, on va dire, des gens qui ressusciteront. Parce que, bon, bah, on sait déjà que dans la population, il y a une grande partie qui ne va pas ressusciter, c'est-à-dire qui va aller dans un autre monde, on dit de 3D falsifié, mais que ça ne sera pas sur la Terre, ça sera sur une autre planète. Donc eux repasseront toujours par le voile de l'oubli, c'est-à-dire passeront par une renaissance à travers un corps physique. Donc le voile de l'oubli se reposera sur eux, mais l'avantage, c'est qu'ils seront dans une 3D unifiée, c'est-à-dire un paradis pour eux par rapport à ce que c'était avant, c'est-à-dire qu'ils sont dans une benne toute neuve de 3D. Mais elle est toute neuve, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la pollution qu'il y a chez nous. Donc déjà, vous pouvez imaginer de tomber dans un monde où déjà l'astral est nul. C'est-à-dire que c'est propre, quoi. C'est propre, donc comme c'est propre, ben, ça va être quand même beaucoup plus léger à vivre. Donc ça paraîtra vraiment un paradis. Donc on peut dire, allez, j'ai donné des chiffres comme ça, mais on s'en fout. Si 9 personnes sur 10 vont en 3D unifié, c'est 9 personnes sur 10 qui vont au paradis. Pour elles, elles vont au paradis. Mais elles ne le savent pas. C'est-à-dire qu'elles ne se rappelleront pas leur vie antérieure. Ne se rappelleront pas leur vie antérieure et ne pourront pas dire c'est mieux. Mais leur âme saura que c'est nettement mieux. Comme dirait l'autre, ils repartent avec une voiture pratiquement neuve, hein, puisque de toute façon, génétiquement, il y aura quand même, il n'y aura pas de traficotage à ce niveau-là, puisqu'il faudra que la personne quand même se sorte. Donc ça veut dire qu'on reprend à peu près les mêmes voitures, mais l'air est propre, l'eau est propre et l'essence sera pure. Donc la voiture va donc fonctionner nettement mieux. Hein. Donc on peut s'attendre à ce que dans ce monde de 3D unifié, les gens vivent nettement plus longtemps, et je pense que ça sera de l'ordre d'à peu près 1200 ans. Hein, c'est ce que vivaient nos ancêtres avant. Hein, c'était 1200 ans, puis après ça a été mis à 120. Hein, on a juste sauté un zéro. Hein. Donc, 1200 ans sera à peu près la vie moyenne, je pense, dans le 3D unifié. Donc, par contre, pour les gens qui vont ressusciter, bah là, c'est pour la quasi-majorité, donc, on va dire, si je prends 90% vont en 3D unifié, 10% vont aller en 5D. Mais dans ces 10% de 5D, il y en a 9%, on va reprendre la même chose, qui vont avoir pour objectif de travailler leur unification avec leur grand soi. Puisque ressusciter, ça veut dire avoir refait un au niveau de son soi inférieur et supérieur. Son petit soi, quoi. C'est-à-dire que là, il a fait 1. Donc l'objectif pour 9% de ces gens-là sera de faire la fusion avec leur grand soi, c'est-à-dire entre la 13e et 24e dimension. Donc là, ça fait, donc on va dire, 9%. Et puis il y aura 1%, c'est-à-dire qu'ils sont des gens qui sont ressuscités, effectivement, qui sont donc en 5D, mais en fait, ils sont pratiquement des gens 6D+, quoi. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ça va être une formalité pour eux, pour fusionner, à ce moment-là, leur petit soi avec le grand soi. C'est-à-dire qu'ils retourneront, à ce moment-là, à leurs origines stellaires. Hein, c'est-à-dire qu'ils... puisque le grand soi, je vous rappelle, c'est la distance entre le Soleil et le Soleil central, et donc, forcément... aujourd'hui, bon, j'ai dit des chiffres comme ça, hein, mais je veux pas, ça n'a pas valeur, je dirais, c'est seulement théorique. Eh bien, on peut dire 90% iront en 3D unifié, 9% iront, enfin, on va dire 9 plus 1% iront en 5D, 6D. Et parmi ces 10 personnes, eh bien, il y en aura une qui ira plus loin. Voilà. Donc, c'est à peu près ce qui devrait se passer. Enfin, c'est dans la logique. Hein, voilà. Donc, pour certaines personnes d'entre nous, on restera en 5D, 6D pour faire le joint, on va dire. Hein, peut-être le temps d'une vie, quoi. Et encore, puisque une vie, ça dépendra de ce que nous aurons choisi, entre guillemets, puisque tout dépend de nos origines stellaires. Et donc, on sera beaucoup plus dans une notion intraterrestre, on va dire. Dans cette notion intraterrestre, il faut savoir qu'il n'y aura plus de météo. Donc, il n'y aura plus de tempête, il n'y aura plus de tornade, il n'y aura plus des 50 degrés à l'ombre, il n'y aura pas des moins 50. Ça veut dire qu'on sera quasiment à poil, quoi. Alors, on sera à une température ambiante, il fera toujours jour, il n'y aura plus de nuit, puisque bah, théoriquement, la vie humaine devrait être avec deux soleils et non pas un, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de nuit. Donc il n'y a plus besoin d'avoir des lampadaires pour avoir peur des voleurs et plus rien, il fera toujours jour. Enfin bref, c'est un autre monde. Et histoire de s'habituer, hein, c'est-à-dire que c'est une personne sur 10, bah, elles seront d'une certaine manière des leaders, comme ils ont été des ouvreurs de chemin, puisque forcément ils ont une patate un petit peu plus costaude, on est d'accord. Et ils vont aider, puis arrive un moment quand les autres auront construit leur petite maison, seront habitués à leur truc, etc. Alors ça prendra le temps que ça prendra, hein. On s'en fout, puisque, comme je vous dis, à peu près la moyenne d'âge, enfin la moyenne, et encore c'est un grand mot, puisque ça dépend à peu près des individus, faut compter à peu près 5000 ans de base dans un véhicule. Sachant que vous allez pouvoir passer d'un véhicule à l'autre sans perdre aucune conscience, donc le processus de la mort n'a plus lieu à ce moment-là. Hein. Vous ne faites que changer de véhicule, et grosso modo, vous pouvez le faire au moins 10 fois, 10 à 12 fois en moyenne. Ce qui donne que, grosso modo, vous allez, quand on est en 5D, 6D, on peut dire que l'étape moyenne, c'est entre 500 et 600 000 ans. Mais bon, comme vous vivrez dans un espèce d'éternel présent, ça ne voudra pas dire grand-chose. Il est évident que si vous dites à un humain qui aujourd'hui vit, on va dire, allez, 80 ans, 75 ou 80 en France par exemple, 75 ans pour les hommes en moyenne, 80 pour les femmes, en moyenne, on vous dit, bah, vous allez vivre 500 ou 600 000 ans, c'est sûr que ça va changer des 1200 ans de 3D unifié, on est d'accord. Mais vous en foutrez complètement, puisque la mort en elle-même, vous aurez découvert qu'en fait, à chaque fois, c'est une renaissance. Donc ça, pour le 3D unifié, c'est génial, puisqu'à chaque fois que vous mourrez, vous renaissez à quelque chose de plus grand, d'une certaine manière. Mais quand vous êtes en 5D, 6D, vous ne renaissez pas quelque chose de plus grand, puisqu'il y a continuité, puisque vous ne passez plus du tout à travers le voile de l'oubli. Donc là, de ce côté-là, ben, y a pas de souci, quoi. Je veux dire, vous en foutez complètement. Donc, je dirais, donc 9 personnes sur 10 vont vivre ça, donc c'est déjà sympa. Hein. Et ensuite, ben, la une personne sur 100, ben, elle, ben, au bout d'un certain temps, ben, peut-être 1000 ans, enfin j'en sais rien, hein. Au bout d'un certain temps, on va se dire, bon, ben, c'est bien, maintenant que tout le monde est installé, tout le monde a sa petite maison et tout le monde a reconnecté véritablement avec son soi supérieur, son petit soi supérieur, eh bien, à ce moment-là, bon, j'ai plus besoin de rester là, je peux me casser, quoi. À partir de là, eh bien, il y a fusion avec le grand soi et l'esprit directeur, et à ce moment-là, qui était au niveau du soleil, eh bien, va devenir adulte. Simplement, puisque tant que nous serons en 5D, 6D, nous ne serons pas encore adultes. C'est-à-dire que nous sommes en pleine puberté, entre guillemets, hein, si je reprends à peu près les choses. Tant qu'on était en 3D, 4D, on était des gamins, mais certes sexués, mais pas opérationnels. Hein, et puis, bah, en fait, la 5D, 6D, c'est grosso modo la puberté, quoi. Hein, donc, on va découvrir comment créer, que l'on peut créer. Hein, donc, on va commencer à créer... d'abord la bicoque, et puis les choses autour, et puis petit à petit, et découvrir la notion véritablement de ce qu'est être un créateur. Un co-créateur, si vous voulez, mais bon, un créateur. Donc d'être un dieu, véritablement. Et une fois que vous aurez fini, donc on va dire la puberté, vous devenez donc adulte, et donc là vous êtes à ce moment-là une entité, un couple qu'on dit père-mère, hein, c'est-à-dire vous serez capable d'enfanter. À partir de là, eh bien, vous serez prêt. Donc vous irez généralement, je dirais, dans votre famille stellaire d'origine, c'est-à-dire le plus proche de la source, afin de pouvoir aller, on va dire, ensemencer ce qu'on appelle le second cercle atomique, hein, c'est-à-dire les cinq autres super-univers qui nous attendent. Voilà, hein, donc ça c'est la logique, hein. Alors combien de temps ça va prendre? Ben, vous connaissez ma réponse, on s'en fout, hein, parce que de toute façon, dès qu'on sera ressuscité, le temps ne voudra absolument plus rien dire. Puisque on tournera pas, je dirais, on sera pas sur une petite planète tournant autour d'un petit soleil, etc. Alors bien sûr, en 5D, 6D, il y aura toujours des jours, mais je veux dire, les jours, ils vont être courts par rapport à 500 ou 600 000 ans. Surtout que je vous dis, il n'y a plus de nuit, hein. Donc vous saurez même plus, en fait, c'est quand le jour et la nuit, puisqu'il n'y en aura plus. Donc c'est pour ça, ça sera un changement de monde relativement assez radical. Alors, j'ai une question de Coralie qui dit, y a-t-il une différence entre le moi supérieur et le moi divin? Quand on dit le moi supérieur, on peut dire le petit soi supérieur, et le moi divin, Dieu, c'est le soleil, donc ça veut dire c'est le soi supérieur. Donc tout ça, c'est la même chose. Ce sont simplement des terminologies identiques, hein, qui dénotent en fait ce que je disais, l'autre hexagramme, puisque le premier hexagramme, c'est de 1, le chakra 1 à 6, et le deuxième hexagramme, c'est de 7 à 12. Donc tout ce qui est de 7 à 12, donc le petit soi supérieur, c'est notre moi divin. Oui, c'est ce qui nous permet de retrouver Dieu, c'est-à-dire notre capacité de redécouvrir la co-création consciente totale. Et pour ça, bah, il faut avoir fait le joint entre la première dimension et la 12e dimension. C'est-à-dire réunifier le soi, le petit soi, c'est-à-dire la partie masculine incarnée de notre esprit directeur. Alors, Kazuo, beaucoup, bah oui, c'est les familles d'âmes, beaucoup parlent de ces familles d'âmes comme étant notre vraie famille plutôt que celle dite biologique. Est-ce le cas? Bon, déjà, la première chose, quand on parle du biologique, vous parlez, on ne va pas dire, du moteur de la Terre, hein, c'est-à-dire le côté biologique, le côté matériel qui fait que vous avez votre support. Quand on parle de famille d'âmes, bah, vous parlez ni plus ni moins, je dirais, de la famille qui correspond au moteur du ciel, ni plus ni moins. Et c'est pour ça que, comme nous, dans le moteur de l'humain, bah, on essaye de relier les deux. Hein, c'est-à-dire qu'on aimerait bien, quelque part, que notre famille d'âmes, entre guillemets, donc l'équivalent du moteur du ciel, eh bien, ça se concrétise dans notre moteur d'humain. Par bien sûr l'incarnation dans le moteur de la Terre. C'est bien, c'est un doux rêve, on est bien d'accord, mais je rappelle que l'objectif n'est pas de vivre une vie paradisiaque, enfin entre guillemets, hein, c'est de remplir votre contrat de vie. Donc votre contrat de vie, s'il stipule que vous allez devenir milliardaire et que vous allez vous glander à mort, bon bah c'est votre contrat de vie, on est d'accord. Mais s'il dit autre chose, bah c'est autre chose. Ok, donc il faut comprendre à ce niveau-là que le contrat de vie, quand vous le suivez, fait que vous êtes en joie permanente. Puisqu'il y a accord total entre votre âme, entre ce que vous vivez véritablement dans la matière au niveau du corps, et donc dans tous les différents corps relativement connus, ben vous serez au top. Et donc quand quelqu'un est totalement en harmonie avec ben, son soi supérieur, c'est-à-dire avec toutes les demandes de son âme, et qu'il le vit réellement dans son corps physique, eh bien, il a rempli son contrat et donc il est au top. Le reste, vous n'avez pas à renégocier votre contrat de vie ou à en fabriquer un nouveau. On n'est pas là pour ça. On en a déjà un. Voilà. Je vais passer à la question de Nora. Quelle est la différence entre une vieille âme et une jeune âme? Peut-on reconnaître ces grandes âmes venues de très loin quand elles sont près de nous? Alors, les grandes âmes, enfin les vieilles âmes ou une jeune âme, c'est relativement assez simple. Il faut reprendre la croissance de l'arbre et des branches. Quand vous avez une grosse branche de l'arbre, bah ça donne des petites branches, enfin des branches moyennes, puis après Enfin, vraiment, j'ai plus les mots, mais enfin, une petite branche, puis après, ça devient une brindille. Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'une brindille, à chaque saison qui passe, eh bien, cette brindille grossit. Donc, il y a de plus en plus de bourgeons. Et petit à petit, cette petite brindille, eh bien, devient un jour une petite branche d'arbre, etc. Donc, forcément, si vous regardez bien un arbre, vous voyez qu'il y a beaucoup de petites brindilles, il y a beaucoup de feuilles. Mais quand vous regardez aussi sur les grosses branches, il n'y a pas, comment dire, quand il y a une grosse branche, elle se divise en deux branches, on est bien d'accord, mais il y a souvent des sous-branches, on va dire. Hein, des petites branches qui sont sur la grosse branche tout de suite. Eh bien, ça, c'est des vieilles âmes, c'est-à-dire que quand on dit vieilles, ça veut dire qu'elles sont en contact avec la source, elles sont plus proches de la source. Alors, extérieurement, elles sont toujours comme une feuille. On voit toujours une feuille, on dirait qu'il y a une petite brindille là, qui fait 10 cm avec trois feuilles de trucs, alors que la branche, elle continue sur 5 mètres. Oui, mais ces 5 feuilles-là, elles sont plus proches de la source. Et donc, comme dirait l'autre, quand les nutriments montent des racines pour remonter dans les feuilles, elles sont les premières servies. Et donc, si vous regardez bien un arbre, vous verrez qu'il y a des centaines, voire des milliers de feuilles qui sont pas sur des grosses, enfin, qui sont pas sur aux extrémités, des extrémités des extrémités. Elles sont sur les branches, mais c'est des petites brindilles de rien du tout qui se baladent un petit peu partout, sur toutes les branches. Et donc, on peut dire à ce niveau-là, ce sont des vieilles âmes. C'est-à-dire, elles sont connectées très proches. C'est-à-dire que si je promets de la plomberie, c'est une petite plomberie qui vient se brancher sur un très très gros diamètre, alors que toutes les feuilles normales, ben, comme dirait l'autre, si elles ont un diamètre de 1, ben, elles sont branchées sur de la brindille qui fait un diamètre de 2. Alors que les vieilles âmes, ben, c'est un petit diamètre de 1 qui est branché sur un truc qui fait 100. Et ça n'a pas le même rapport. Hein? Voilà. Mais ce sont tous des âmes, elles sont tous nourries par l'un. C'est toujours l'un, mais simplement, elles ne sont pas dans le même espace, elles sont plus proches du tronc, généralement. Et donc, elles sont alimentées par du sang beaucoup plus puissant, on va dire. Alors, voilà, donc quand tu dis, peut-on reconnaître ces grandes âmes venues de très loin? Bah oui, quand on est une feuille qui est complètement à l'extrémité du bout de la branche et qu'on regarde une petite brindille qui est proche du tronc, c'est sûr qu'elle nous paraît très très loin, puisque en fait elle est plus proche du centre de la galaxie d'une certaine manière. Hein? Alors là, âme sœur et flamme jumelle, comment reconnaître son âme sœur ou son âme jumelle? Bah, c'est simple, écoutez votre cœur. Et, de toute façon, s'il y a quelque chose qui se passe, si ça vibrationne à mort, bah, il va vous le dire tout de suite, parce que c'est seulement votre soi supérieur, c'est seulement votre âme qui pourra vous le dire. Donc ça ne sert à rien de se mettre dans le crâne. Alors si l'autre, elle a les yeux bleus, puis si elle est blonde, et si ceci, puis si elle est grande comme ça, et si elle est née à telle époque, tout ça c'est du mental. La vibration est la vibration. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un et que votre cœur bat la chamade, enfin la chamade, il se passe quelque chose, vous sentez bien, vous avez des grandes vapeurs et tout, vous comprenez généralement pas, surtout que souvent la personne qu'il y a en face correspond absolument pas à vos critères, dans la majorité des cas. Donc souvent, on se bloque à la rencontre de ces gens-là en se disant « Ah oui, non mais t'entends celle-là, t'as vu le pouilleux là, ou t'as vu la vieille, ou t'as vu le crouton, enfin tout ce que vous voulez, ouais, ça va pas quoi. » Donc vous restez guindé en disant « Non, j'ai rien vu, je continue ma route parce que moi j'ai des choses à faire, là il faut que j'aille acheter de la potée pour chien, ici et ça, et vous passez à côté. » Alors bien sûr, plus on s'endurcit, plus c'est difficile de recevoir, on est d'accord. Donc si vous êtes suffisamment sensible et vous acceptez la différence, eh bien vous allez voir que progressivement vous allez devenir plus sensible. Alors bien sûr, au départ vous allez choper quelques personnes et vous allez devenir plus inconditionnel, puisque vous ne poserez plus que de conditions, vous sentirez simplement bien avec la personne, et puis petit à petit vous commencerez à connaître l'intensité qui passe. Et donc, quand une autre personne vous fait le même effet, enfin, je veux dire, vous sentez attiré vers, mais vous sentez que c'est deux graduations au-dessus, eh bien, vous allez petit à petit, bien sûr, pouvoir détecter. Hein. Rappelez-vous, c'est toujours la loi d'attraction et de résonance. Vous ne pouvez choper les fréquences qu'à la seule condition que vous êtes vous allez choper, par la loi d'attraction, que les fréquences qui sont similaires à vous. Donc si vous êtes guindé et vous êtes coincé parce que vous y mettez des limitations, on va dire, physiques, physique ou social ou tout ce que vous voulez, ben écoutez, vous recevrez, comme dirait l'autre, ce que vous semez, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes guindé, la flamme jumelle ou l'âme sœur ou tout ce que vous voulez, vous allez un peu passer à côté, quoi, parce que vous êtes coincé, quoi. Vous avez une sensibilité affaiblie, quoi. Hein? Donc plus généralement on devient sensible, tout en déconnectant le mental avec son moteur de la souffrance, mais vous verrez que vous êtes attiré par tout le monde, en fait. Parce que intrinsèquement, dès qu'on commence à taquiner de la 4D, voire. Et bon, quand vous êtes en 4D+, quel que soit l'individu, vous sentez attiré. Parce que vous êtes dans la loi de l'un et vous sentez ça. Et ça devient une vérité, quoi. Quand vous êtes en 4D, vous commencez à sentir que vous êtes vachement ouvert aux gens, quoi. En 3D, on va dire en 3D+, vous aimez le contact, sans plus. Mais si ça dépasse certaines limites, tout de suite, ça y est, les volets se ferment, quoi. En 4D+, il n'y a plus de volets. Mais vous avez même viré les fenêtres. Enfin, je vais dire les fenêtres, les bâtons des fenêtres, quoi. Il n'y a plus rien, c'est-à-dire que quelle que soit la forme de vie qui se pointe, vous avez le sourire. Et donc là, c'est sûr que ça soit un petit zozio, un aigle, un humain, un cheval, vous allez avoir une jouissance, un plaisir qui va être directement proportionnel à la nature de l'entité qui vous visite. Et donc là, la notion, on va dire, d'âme sœur et flamme jumelle, ou d'âme jumelle, on s'en fout littéralement. Parce que ça, c'est une projection du manque de la 3D. Dire oui, mais je voudrais quand même vivre le bonheur dans cette poubelle, quoi. Quand vous voyez plus la poubelle comme une poubelle, mais comme une source d'enrichissement et de terreau, vous cherchez plus la flamme jumelle. C'est tous les autres qui vous tombent dessus parce qu'ils disent, mais celui-là, il dégage là, qu'est-ce qu'il a, quoi. Donc vous n'êtes plus du tout à la recherche. Donc c'est pour ça, c'est juste une histoire de vibration. Une fois que vous serez en 4D+, cette histoire d'âme sœur ou d'âme jumelle, vous en foutrez. Comme de vos premières chemises, on va dire. Alors, famille d'incarnation, Viviane, comment expliquer l'âme qui s'incarne dans une famille qui ne la désirait pas et qui lui signifie tout au long de sa vie qu'elle est un boulet? C'est simple, ça fait partie du contrat de vie. C'est-à-dire que si dans une vie antérieure, vous avez envoyé balader vos gosses parce que tout simplement vous aviez votre profession qui faisait qu'elle était plus importante que le reste, vous n'êtes pas occupé de vos gosses, vous les connaissez quasiment pas, etc. Parce que vous aviez une vie professionnelle, il fallait soi-disant leur donner à bouffer. Bien, dans une vie suivante, vous allez ni plus ni moins subir le même sort. Voilà, donc vous allez tomber chez papa-maman et vous dire, mais pourquoi la papa-maman, là, ils ont un truc et ils m'oublient, ils veulent pas me voir. Bon, ils ont peut-être pas de raison professionnelle, hein, mais ça fait partie du contrat de vie, donc il n'y a pas à se... À se prendre la tête par rapport à ça, c'est que tout simplement, quand on n'a pas vécu, pour des raisons ici grisettes, ce qu'il y avait d'une certaine manière à vivre et à expérimenter, eh bien, vous allez donc en connaître la facette opposée. C'est normal, ça fait partie du monde de la dualité. Donc, nous avons tous subi ça, à tous les degrés. Ça dépend des vies. Alors, comment doit réagir cette personne envers cette famille? C'est simple. Elle doit rester cool et en paix et s'en foutre. C'est aussi simple que ça. Hein? Donc, je vais en profiter pour vous dire. Je n'ai pas souvenir que ma mère ait eu un geste de tendresse envers moi. Je n'ai absolument aucun souvenir. C'est-à-dire que depuis que je suis capable d'enregistrer quelque chose dans cette mémoire, rien. Je ne sais pas. Ma mère ne m'a jamais dit un mot doux, mais elle m'a toujours démoli, toujours. Mais jamais une caresse, jamais un bisou, rien. Si le bisou, c'était quand j'étais gamin, puis que je me faisais mal, elle faisait un bisou, ça y est, c'est fini, c'est guéri. À part ce truc-là, jamais. Je ne connais pas. Vous voyez, ça ne m'a pas forcément dérangé outre mesure. Hein. Donc, il suffit simplement d'accepter ce qui est. Parce que c'est en comparant avec les autres que vous faites du mal. Alors, que signifie pour cette mère avoir cet enfant non désiré qui va lui valoir beaucoup de problèmes avec sa famille, sa profession, rejet, humiliation? Ben là, c'est du pur 3D, hein. Cet enfant non désiré. Quand on comprend comment joue la vie, en fait, le non désiré, ça n'existe pas. Ça veut dire que c'était prévu. Tout a été prévu. Même ça. Donc, déjà, là, c'est un changement, je dirais, de point de vue qu'il faudrait prendre. C'est-à-dire que un enfant n'est pas non désiré. Il arrive quand il arrive. Parce que c'est le moment pour qu'il arrive. C'est simplement le mental ego qui dit « Mais moi, j'en voulais pas, moi. » Oui, parce que simplement, comme elle n'était pas en contact avec son contrat de vie, elle ne pouvait pas savoir qu'à toute façon, ça allait lui tomber dessus. Voilà. Alors, une autre question de Colibri. Tout le monde dit que les liens du sang sont les plus forts. Alors, comment cela se fait-il qu'une mère puisse renier ou oublier qu'elle a un enfant? Ben là, je viens de répondre aussi. Les liens du sang sont les plus forts. Ça, c'est les liens du moteur de la Terre. C'est normal. Donc, c'est un code génétique. Quand vous avez un gamin, il possède la moitié de votre code génétique. Donc, c'est sûr que c'est fort. Ah ben, le code génétique, c'est fort, hein. Puisque, bon, si vous avez vu ma série vidéo sur l'ADN quantique, le moteur quantique, ben, c'est sûr que si vous êtes né chez Citroën de telle série et que vous êtes sur la même chaîne et vous avez les mêmes trucs, les mêmes pièces, les mêmes ennuis, les mêmes faiblesses, les mêmes trucs, c'est sûr qu'il y a des liens qui sont forts, hein, puisque les mécanos que vous allez trouver, ça sera les mêmes. Donc, de ce côté-là, on est OK. Mais c'est pas parce que vous sortez des mêmes chaînes de fabrication que forcément les chauffeurs ont la même mentalité qui vont être d'accord. Donc vous pouvez très bien sortir de la même chaîne de fabrication et ne pas être d'accord avec celle qui vous a pondu. Donc quand une femme est devenue une pondeuse, pour des raisons sociales, hein, en général, parce que c'est le système qui fait ça, quand on dit croissez et multipliez-vous, la femme n'est qu'un objet reproducteur, point barre. Donc c'est sûr que les gamins, quand ça pond, ça pond, et là on n'est plus à l'époque où il fallait en accoucher 18 pour qu'il y en ait 5 qui vivent, quoi, qui survivent. Donc on oublie que dans le passé, il n'y avait aucune méthode contraceptive, et que bah, ça tombait enceinte en voiture, voilà, mais que les gamins qui passaient la barre des 5 ans, quand ça passait les barres des 5 ans, c'était déjà pas mal. Hein. Donc aujourd'hui, on fait un gamin, on en fait 2, on en fait 3, et puis ça survit, et puis il n'y a pas de problème. Donc on se dit, si m'en était tombé 12 dans la casserole, waouh, ben c'est arrivé, je dirais, au baby boom. Hein. Donc les familles d'une douzaine de gamins, ça court les rues quand même, à cette époque. Hein? Parce que les gamins, ils n'auraient pas 3 ans, quoi. Donc, ça faisait du monde quand même. Hein? Donc, les mères, quand elles sont prises simplement pour des objets reproducteurs, eh bien, je peux vous dire, elles ne sont pas forcément, un amour grandiose envers leurs gamins que si elles en avaient eu 2, quoi. Donc, il ne faut pas comparer les... Il faut recadrer un petit peu les choses quand même de temps en temps. Hein. Surtout qu'à chaque génération, comme en France, à chaque génération, il y avait une guerre. Donc, comme dirait l'autre, tu fais des gamins, tu fais 12 gamins, il y en a 3 qui survivent, et il y en a 2 qui vont se faire tuer à la guerre. Alors, sincèrement, arrivé au bout d'un certain moment, c'est compréhensible qu'il y ait quand même des dames qui regardaient les gamins comme ils regardent... des poussins, quoi, je veux dire, ça pousse, ça va passer à la casserole, point barre, on va pas en faire. C'est pour ça que les lois sécuritaires, qu'il y avait rien qu'à bonne époque, quand je vois qu'on montait à 5-6 dans une petite remorque attelée à la mobilette de la mère, et puis le père, c'était pareil, il n'y avait pas de casque, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, il n'y avait rien du tout. Alors imaginez, à l'époque, il n'y avait pas vraiment les feux rouges, c'était que de la priorité à droite, que bon, les gens ne se rappelaient pas toujours que c'était une priorité à droite, puisque les stops, il n'y en avait pas des masses. Donc, on a survécu à tout ça. Bon, concernant les liens affectifs de Laetitia, quand on a à sa mère qui a des problèmes, qui déprime beaucoup, qui se sent perdue, qui est dépendante affective et que malgré tout on essaye de l'aider par tous les moyens, mais en vain, ça n'aboutit à rien, on se cogne au mur, qu'est-ce que cela veut dire? Que faire? Faut-il abandonner? Je ressens ça comme une fuite et prendre le risque qu'elle se retrouve en danger. Bah écoutez, c'est pas difficile. Faut-il l'abandonner? Vous vous sentez coupable. Qu'elle se retrouve en danger? On se retrouve coupable. Donc dans tous les cas, là, la question, elle est simple. C'est qu'est-ce que je fais envers une personne que j'ai dans les pattes? Si je fais rien, je me sens coupable. Et si je fais quelque chose, je vois que ça ne marche pas. Ça s'appelle la dualité, tout simplement. Et donc pour moi, il y a deux choses à faire à ce niveau-là. C'est d'abord commencer à travailler sa culpabilité en disant, eh ben, je vais lui apporter le minima syndical pour que tout se passe bien pour elle, sans me prendre le chignon, premièrement, hein, puisque de toute façon, apparemment, l'autre en face, elle n'en a rien à battre. Donc, qu'elle ait un toit de quoi manger, c'est bon. Hein. Et ensuite, eh bien, la deuxième chose, bah, c'est de reprendre de ma liberté, entre guillemets, et surtout bah, de ne pas me sentir en culpabilité, de dire oh, oui, mais j'en fais pas assez. Voilà. Alors, on va passer à un autre thème maintenant, c'est qu'allons-nous vivre? Quelles sont les étapes du train de l'ascension cet été? Alors là, bah, on retombe toujours en 3D, je veux des dates, je veux des dates, je veux des dates. Bah, assez simple, de toute façon, là, on se dirige à grands pas vers l'été, c'est-à-dire vers le 21 juin, à quelque chose près. Donc, 21 juin, bah, c'est juste en face, comme dirait l'autre, du 21-12, hein, c'est-à-dire que par rapport à la Terre, la position de la Terre par rapport au Soleil, nous sommes juste en opposition par rapport à l'alignement final. Hein, c'est-à-dire que grosso modo, quand la Terre sera alignée, je dirais, avec la source et le Soleil, ben, c'est dans 6 mois. C'est-à-dire que pour l'instant, on lui tourne le dos, mais quand ça va être de face, on va s'en ramasser un max. Donc là, on est vraiment un petit peu comme le marathonien qui court, je dirais, dans un stade d'athlétisme. Vous savez, à la piste de 400 mètres, quand vous dites 42 km quelque chose et vous divisez par 400 mètres, ça fait un paquet de tours. Hein. Donc ça en fait 100 et des brouettes. On va dire 108 comme ça, à vue de nez. C'est quand vous avez 108 tours à faire. Nous, c'est pas 108 tours qu'on en a fait, là. On en a fait des milliers. Et qu'on vous dit, il vous reste 200 mètres. Vous voyez la ligne d'arrivée, vous êtes en face, mais merde, il y a le terrain de foot au milieu. Et vous pouvez pas traverser le terrain de foot, il faut vous faire bah, tout le demi-cercle, quoi. Hein, les deux bouts de droite et le demi-cercle. Vous dites, il reste plus beaucoup quand même de route à faire quand même. Hein. Donc, quelles sont les étapes du train d'ascension cet été? Bah, c'est simple, c'est vitesse maximale. Et l'objectif, c'est que pour franchir la ligne d'arrivée, on sait que ce sont les derniers mètres qu'on a tendance à mollir. Hein, c'est-à-dire que plus on voit la ligne d'arrivée, plus bah, on commence à ralentir le pas, et puis à l'arrière, bah, on ne court plus, on marche, quoi. Hein, vous voyez souvent ça dans les jeux. Dans les Jeux Olympiques, où ben, quand quelqu'un il voit la ligne d'arrivée, 3 mètres avant, il commence déjà à ralentir, voire freiner, quoi. Alors que, quelque part, s'il avait continué à s'affouler sans se dire non, non, j'ai encore un tour à faire, eh bien, il aurait gagné 1 seconde, 2 secondes ou 1 dixième, enfin, je sais pas quoi, il aurait battu tous ses records. Mais il était tellement crevé qu'il n'en pouvait plus, qu'il dit non, bon, ça y est, je vais la passer. Oui, j'ai passé, j'ai réussi ma course, je suis content. Mais en fait, c'est les derniers moments qui sont les plus durs, mais si c'est les derniers moments qui vous permettent d'aller encore plus loin dans vos tripes. Et ce qui fait la différence dans une course de 100 mètres, c'est pas les 90 premiers mètres que vous faites, c'est les 10 derniers que vous finissez, surtout le dernier. Donc on est toujours là, comme je disais tout à l'heure, 90, 9 et 1, ben c'est ça quoi. 90 mètres, c'est pas plus dur, bon, c'est quand même du taf, on est d'accord. Ensuite, bah, les 9 mètres suivants, ils sont archi pénibles. Alors, le dernier mètre, c'est la torture à l'état pur. Et bien là, on peut dire que grosso modo, le dernier demi-tour qu'il nous reste à faire du stade, eh bien, ça va être pour nous, je dirais, une transformation difficile, enfin, pour beaucoup, on va dire. Donc, ceux qui ne sont pas prêts, ça va être terrible. Et puis bah, ceux qui sont déjà en jambes et qui savent, eh bien, comme dirait l'autre, il va y avoir une force de volonté. Mais je ne veux pas dire volonté dans le sens c'est que vous savez que c'est la fin, quoi. Et que vous allez aller au-delà de la souffrance, au même titre qu'une femme qui accouche, quoi. Vous savez que la tête allait penser, ça y est. La tête allait penser, donc maintenant il n'y a plus que les épaules. Et vous savez, c'est à la forme du spermatozoïde. Quand la tête est pensée, la queue, le reste, ça va venir tout seul. Eh bien, c'est à peu près ça, quoi. Quand la tête du gamin elle est passée, là, on est au niveau des épaules, on va dire. C'est, ça va commencer. Donc, il y a eu la tête est pensée, il y a le relâchement avec le cou, quoi. Donc là, on a eu un petit coup de mou, là, on va dire, au printemps. C'est comme si la pression était moins forte, mais là, maintenant, c'est les épaules qui passent. Et une fois que les épaules vont être passées, je veux dire que le reste du bébé va sortir en un temps record, quoi. Donc, pour moi, globalement, les 6 mois à venir sont vraiment les 6 mois définitifs de l'accouchement. Donc, ça va être assez grandiose d'une certaine manière. Hein, mais je parle d'un accouchement dimensionnel. On est d'accord. Donc, une autre question de Lahore et Fleur de Soleil. Qu'en est-il des 3 nuits annoncées par Melchisedec et relayées par certains, toujours au programme, pour quand? Donc là c'est pareil, ni plus ni moins, quand on parle des 3 jours, une fois que vous êtes né, c'est la coupure du cordon ombilical. C'est-à-dire qu'une fois qu'effectivement un certain nombre d'individus seront ascensionnés, c'est-à-dire auront vraiment débarqué, on va dire, dans le monde réel de la 4D, hein, puisqu'on en est là hein, pour l'instant, de la 4D, eh bien la Terre va arriver un moment quand, on va dire, la clinique sera pleine, à craquer de plein de petits bébés, elle va dire, bon, maintenant, c'est bon, on va faire sortir tout ce petit beau monde, parce que maintenant, il faut qu'on aille vivre dehors, quoi. Et donc, ça sera la période des 3 jours, c'est-à-dire que en fait, la clinique où on accouche, eh bien, les murs seront cassés. C'est-à-dire, on déménage tous les bambins, quoi. Donc, la 4D, c'est l'accouchement. L'ascension, c'est ces processus, on va dire, d'accouchement et de naissance. Et quand vous êtes né, vous êtes toujours dans cette clinique, en attente, dans le berceau, entre guillemets. Hein, donc vous vous sentirez, je dirais, suivi, accueilli, parce que vous causerez directement avec votre soi supérieur. Donc vous sentirez que votre nounou, l'infirmière, dans votre soi supérieur, eh bien, il est là en permanence pour vous, à vos petits soins. Et puis, cette période de 3 jours, ça sera le déménagement des bébés en dehors de la clinique. Voilà, donc ça sera toute la période, on va dire, correspondant à la 4D, donc au processus de l'ascension. Parce que dès que vous mettrez le nez dehors, eh bien, vous serez dans un nouveau monde. Et donc là, vous serez, comme on dit, ressuscité. Hein, pour ceux qui passeront en 5D, parce que dehors, ça sera la 5D. Alors, Marie-Jo, si tout le monde n'est pas prêt en même temps... Alors, attendez, j'ai loupé les trucs, là. Si j'ai bien compris, la 4D est une montée vibratoire progressive dans notre corps actuel. Nous restons sur cette Terre, c'est-à-dire dans le même espace physique jusqu'à la 5D, alors quel est le rôle des 3 jours d'obscurité? Donc là, je viens de répondre. Hein. Donc, tout le temps de la 4D, on reste dans la clinique. Le 3 jours d'obscurité, ce sera le déménagement de la clinique. Nénuphar, si tu veux bien parler de l'ascension collective, le moment où la Terre passe en 5D, beaucoup de personnes pensent encore qu'elle est d'actualité d'améliorer ce monde de 3D, alors qu'il me semble que c'est clair, la 3D c'est terminé. Donc effectivement, là aujourd'hui, on n'est plus de se dire comment on va améliorer le bien-être de la femme enceinte puisqu'elle est en train d'accoucher. Donc c'est plus la peine de passer sa vie pour lui dire tu dois suivre tel régime et faire tel exercice, parce que là maintenant elle a les cuisses ouvertes et elle accouche. Donc comme dirait l'autre, c'est plus la peine de s'amuser avec ça, hein, globalement. Hein. C'est métaphorique, hein, tout ce que je vous dis là, hein, bien sûr. Tara, combien de préhumains réveillés y a-t-il à ce jour sur Terre? C'est simple, ça augmente en permanence. Donc aujourd'hui, on peut parler en dizaines de millions, ça c'est clair. Et je pense qu'on parlera en centaines de millions à la fin de l'année. Hein, si je reprends à peu près sur les 7 milliards d'humains, si on prend 10% qui devrait théoriquement donc ascensionner, ça fait 700 millions quand même. Donc ça fait du monde. Alors les 700 millions, ils ne vont pas ascensionner au 21-12, là. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'est une période qui va s'étaler. Donc, on va... là, on parlait en millions, maintenant on commence à parler en dizaines de millions. Peut-être qu'à la fin de l'année, on sera peut-être à 100 millions, je ne sais pas. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, on sera à 700 millions. Bon, moi, ça, c'est des chiffres globaux comme ça. Mais c'est à peu près de l'ordre. Donc, ça augmente en permanence. C'est pour ça que la Terre attend qu'il y ait le maximum d'accouchements. C'est seulement quand les murs de la clinique seront vraiment, vraiment trop petits qu'elle dira « Bon, ben, ça y est, maintenant, j'ai fait le plein, on déménage. » Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas combien de temps va durer la 4D. Donc, Marie-Jo, si tout le monde n'est pas prêt en même temps, la cohabitation va-t-elle se passer dans la même dimension? Oui, on sera tous dans la même clinique. Simplement, il y aura ceux qui sont nés aujourd'hui, ceux qui sont nés il y a une semaine, ceux qui sont nés il y a un mois, puis il y a ceux qui sont nés il y a un an, quoi. Donc, il y a différents étages. Et... il y a effectivement une distinction. Alors là, je continue à faire les questions. Fleur de soleil, à quel moment se fait le départ de ceux qui vont en 3D unifié? Peut-il y avoir des départs collectifs du genre une nation entière vers la 5D? Donc, le truc, c'est que quand, comme dirait l'autre, quand vous venez juste de naître, eh bien, vous restez, on peut dire, dans le caisson, entre guillemets, de l'accouchement, pas loin. Et puis, bah, quand vous avez commencé à sourire, à respirer, à ouvrir les yeux, c'est sûr qu'on vous mettra dans une dimension différente. Et c'est pour ça que je parle de la 4D. Alors, il y a la 3D+, donc ça, la 3D+, c'est tous les gens qui arrivent pour accoucher. La 4D, bah, c'est ceux qui accouchent. Et la 4D+, bah, c'est l'étage au-dessus, quoi. C'est-à-dire que les gens sont déjà nés et ils vont passer à l'étage au-dessus, quoi. Donc on peut dire qu'il y a le rez-de-chaussée, les urgences, là où on accouche, les nouveau-nés au premier étage et ceux qui ont un petit peu plus de bouteilles au deuxième étage. Donc nous ne vivons pas dans les mêmes dimensions. Quand on parle de 4D, c'est premier étage et deuxième étage. Mais il y a quand même une distinction entre les deux. Pour ceux qui lisent mes articles, vous en avez une. Il y en a une. Puisqu'il y a le bébé qui vient de naître et qui a besoin de s'adapter. C'est-à-dire que il n'a pas encore ouvert les yeux, il ne sourit pas, il ne peut pas reconnaître encore l'infirmière, enfin, il ne peut pas distinguer la blonde de la brune. Donc, quand vous êtes en 4D+, vous pouvez voir quelles sont les infirmières, combien il y en a, c'est quoi leurs horaires, et vous pouvez voir les autres bébés à côté, puis commencer déjà à cavaler pour aller leur causer. Enfin bref, quoi. Vous commencez déjà à avoir une vie, mais vous êtes toujours un gamin, quoi. Vous êtes toujours... Vous n'avez pas encore appris à marcher tout seul. Non, pas encore. C'est en cours. Parce qu'après ceux qui cavalent, on les mettra au troisième étage. En attendant, quoi. Peut-il y avoir des départs collectifs du genre une nation entière à la 5D? Alors, ça fait sourire quand on dit nation entière. Disons que, effectivement, il y a, comme dirait l'autre, pour emmener les enfants, enfin les femmes à accoucher à la clinique, il y a plusieurs cliniques et c'est pas le même état d'avancement dans chaque pays, on va dire. Donc il y a des pays qui vont sentir le phénomène bien avant d'autres pays, entre guillemets, car tout dépendra, je dirais d'une certaine manière, de la vibration sociale qu'ils ont. Donc les pays qui ont su conserver une énergie féminine importante par rapport à d'autres, par exemple, je pense à l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, ils sont très très féminins, puisque Marie passe avant Jésus, je vous signale. Et ils sont très dans la vibration, ils sont beaucoup plus dans la joie, ils sont dans les couleurs. Pourtant, ils sont dans des niveaux de vie qui sont pas bon, donc qui s'améliorent, faut dire, mais ça n'a rien à voir avec la vieille Europe, quoi. Donc, il y a effectivement des continents, nations, qui vont, comme dirait l'autre, prendre les premiers wagons. Mais de toute façon, les 3 jours, ça sera pour tout le monde en même temps, de suite. Enfin, de suite, c'est-à-dire que, quel que soit le moment où vous avez accouché, l'âge que vous avez, quand il y aura les 3 jours, c'est déménagement de toutes les cliniques. Donc, c'est pas une clinique l'une après l'autre. Ça sera toutes les cliniques en même temps. C'est-à-dire que la Terre, quand elle va faire phénomène de 3 jours, c'est elle passe directement dans la 5D6D. Donc là, c'est clair. Quand les maternités, voilà le mot. Quand les maternités seront vidées, le tri sera vite fait, hein, puisque c'est selon les étages. Donc tous ceux qui seront en 4D+, bon bah systématiquement seront embarqués, on va dire, tout de suite direction 5D, hein, c'est évident. Tous ceux qui sont en 4D, comme dirait l'autre, bah, il va falloir faire un tri. Hein, et donc c'est pour ça que quand nous allons nous retrouver en 5D, il y aura un sas pour les retardataires, ce qui est appelé, hein, c'est-à-dire qu'il y aura des choses qui seront tolérées dans le sas. Hein, donc tout le monde ne passera pas par ce sas. Hein, c'est-à-dire que si vous êtes au deuxième étage, voire troisième étage, là c'est direct. Par contre, si vous êtes au premier étage, c'est-à-dire à la 4D, seul, hein, là il y aura un tri pour savoir si vous êtes né il y a 2 jours ou si vous êtes né il y a quand même une semaine, quoi. Donc ça, c'est il y aura un tri. Hein. Donc des choses seront acceptées en 5D, mais ça sera localisé. Hein. Je pense particulièrement aux rapports sexuels, par exemple. Hein, les rapports sexuels seront encore tolérés pour un certain nombre d'individus qui sont en fait en 4D, mais qui ne sont pas en 4D+. Donc le temps qu'ils arrivent à choper véritablement la fréquence, c'est-à-dire à dépasser ce besoin physique qui est l'appel du corps, hein, je signale, hein, c'est-à-dire dépasser le notion de l'instinct, voilà, il y aura un sas. Puis bah, tous ceux qui seront au rez-de-chaussée, hein, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont en train d'accoucher ou qui n'ont pas encore accouché, bah, c'est pas difficile, hein, ça sera direction de la 3D unifiée. Alors, une question de Tara, est-ce que tu ressens qu'il y aura encore de gros bouleversements sur Gaïa et dans la galaxie tout court? Alors, bon, c'est des questions très très généralissimes. Le seul truc, c'est qu'il y a des gros bouleversements, il y en aura, enfin, je dirais, il y en aura moins que prévu, dans le sens que la progression actuellement de l'humanité est telle que Gaïa n'a pas besoin de faire les grandes catastrophes qu'on nous a annoncées pour le 21-12. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de grandes catastrophes naturelles qui feront évacuer des millions, voire des centaines de millions de gens. Non. Sauf si c'est prévu. Bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura des départs en masse, mais ces départs en masse, aujourd'hui, ils se font déjà, mais sont masqués, les institutions ne veulent pas vraiment en parler. Mais il y a beaucoup de gens qui meurent. Qui meurent de cancer, de maladies rares, de tout ce qu'on a mis sous le nom de sida, parce que le sida, en fait, c'est une étiquette qui rassemble 320 maladies différentes. Hein. C'est pour ça qu'on ne trouvera jamais de vaccin contre le sida, puisque de toute façon, c'est 300 maladies différentes. Donc, c'est encore une arnaque, ça, mais bon. Et donc, il y aura effectivement des bouleversements, mais il y aura ceux qui sont programmés en termes de départ, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui partent. Beaucoup de gens qui partent. Mais on n'en parle pas trop. On se dit, bon, il est mort d'un cancer, celui-là. Bon, puis l'autre, d'un autre cancer. Puis voilà. Et puis ah, bah, lui, il est mort de vieillesse. Mais bon, c'était quand même un cancer. Mais on ne l'a pas mis dans le cancer parce qu'il avait quand même 82 balais. Enfin bref, on n'en parle pas, mais ça dégage. Ça déménage. Et donc ça, ce phénomène dit naturel, qu'il n'est absolument pas, bon, on dit naturel parce qu'on croit que c'est les choses naturelles de la vie, mais en fait, c'est pas si naturel que ça. Hein? D'accord. Alors, ben, dans la galaxie, forcément, ça va foutre le bouseux, mais ils attendent que ça, en fait. Hein? Ils attendent parce que c'est nous, le chaînon manquant, enfin, le chaînon manquant. Nous sommes le dernier maillon de la chaîne. Hein? Et donc, quand nous, on va ascensionner, tout le reste va passer au stade au-dessus, puisque nous sommes les derniers. Donc, comme dirait l'autre, on est le dernier passager à monter dans le train. Donc, une fois qu'on sera monté, le train va pouvoir partir. Donc là, oui, effectivement, il y aura des transformations à ce niveau-là. Alors,